Chapitre 40. Andrew. Il n'y a pas d'Andrew ici, étranger, pensa-t-il. Andrew est mort depuis bien longtemps. Andrew n'est plus, tout comme moi-même, ne serait plus d'ici peu. Andrew, insista la voix. Elle venait de très loin, elle venait de l'extérieur du pressoir à cidre qui avait jadis été sa tête. Il y avait eu, autrefois, un garçon nommé Andrew, et son père l'avait emmené dans un parc situé aux confins occidentaux de Lude, un parc où poussaient des pommiers et où se dressait une cabane de fer blanc rouillé qui avait une allure d'enfer et un parfum de paradis. En réponse à sa question, son père lui avait dit qu'on l'appelait la maison du cidre. Puis il lui avait caressé la tête, lui avait recommandé de ne pas avoir peur et lui avait fait franchir le seuil masqué par une couverture. Des tonnes de pommes, des paniers de pommes étaient empilés contre les murs. Il y avait aussi un vieil homme décharné répondant au nom de Diolap, dont les muscles se tortillaient comme des vers sous la peau blanche et dont le travail consistait à enfourner les pommes panier après panier dans la machine cliquetante qui occupait le centre de la pièce. D'un tuyau saillant à une de ses extrémités sortait du cidre doux. Un autre homme, dont il ne se rappelait plus le nom, remplissait de cidre une série de cruchons. Un troisième se tenait derrière lui, et son travail se résumait à cogner du poing sur le crâne du remplisseur de cruchons si ce dernier répandait trop de liquide à côté. Son père avait tendu à Andrew un verre de la boisson mousseuse, et bien que le garçon eût goûté à de nombreuses friandises oubliées durant ses années passées dans la cité, rien ne lui parut avoir jamais égalé ce breuvage frais et acidulé. Ça avait été comme avaler une bouffée de vent d'octobre. Pourtant, plus nette que la saveur du cidre ou le grouillement vermiforme des muscles de Dewlap vidant les paniers, lui était resté le souvenir de la façon impitoyable dont la machine réduisait les grosses pommes rouges d'or en liquide. Deux douzaines de rouleaux les amenaient sous un cylindre d'acier perforé de trous. Les pommes, d'abord pressées, étaient ensuite littéralement broyées, déversant leur jus dans une rigole inclinée, tandis qu'un tamis retenait pépins et pulpes. À présent, sa tête était le pressoir à cidre, et sa cervelle, les pommes. Bientôt, elle éclaterait comme les fruits éclataient sous les rouleaux, et une bienheureuse obscurité l'engloutirait. « Andrew, lève la tête et regarde-moi !» Il en était incapable, et l'eût-il pu qu'il ne l'eût pas voulu. Mieux valait rester étendu par terre et attendre les ténèbres. Il était censé être mort de toute façon. Ce satané louchon ne lui avait-il pas tiré une balle dans la tempe ?
« Elle n'a pas touché ton cerveau au trou du cul, et tu n'es pas en train de clamser. Tu as seulement la migraine. » « Tu vas crever, remarque, si tu restes couché là, à vagir dans ton sang. Et ce que tu ressens en ce moment, Andrew, sera de la béatitude comparée à ton agonie. J'y veillerai. »
Ce ne furent pas tant les menaces qui incitèrent l'homme à terre à lever la tête que le fait que le possesseur de cette voix pénétrante, sifflante, semblait avoir lu dans ses pensées. Il haussa la tête avec lenteur, souffrant le martyre. Des objets lourds paraissaient glisser et filer à toute allure dans la boîte osseuse qui renfermait ce qui lui restait de cervelle, y creusant des canaux sanglants au passage. Un long grognement pâteux lui échappa. Il perçut un battement, un chatouillis sur sa joue droite, comme si une douzaine de mouches rampaient dans son sang à cet endroit-là. Il voulut les chasser, mais il avait besoin de ses deux mains pour se soutenir. La silhouette dressée à l'opposé de la pièce près de l'écoutille qui menait à la cuisine avait l'air spectral, irréel. Cette impression était à la fois due au fait que les lumières au plafond étaient toujours stroboscopiques et qu'il ne voyait le nouveau venu que d'un œil. Il n'arrivait pas à se rappeler ce qui était arrivé à l'autre et ne le souhaitait pas. Mais s'expliquait essentiellement ainsi, la créature était spectrale et réelle. On aurait dit un homme. Mais celui qui avait naguère été Andrew Quick pensait qu'il n'en était rien. L'étranger, debout devant l'écoutille, portait une courte veste noire cintrée à la taille, un jean délavé et de vieilles bottes poussiéreuses. les bottes d'un paysan, d'un cow-boy ou d'un pistolero, Andrew ? Demanda l'étranger qui gloussa. L'homme tic-tac fixa désespérément la silhouette sur le seuil, essayant d'apercevoir son visage, mais la courte veste avait un capuchon et celui-ci était rabattu. L'expression de l'étranger était perdue dans ses ombres. L'alarme se coupa net. Les lumières d'urgence restèrent allumées, mais cessèrent de clignoter. « À la bonne heure !» dit l'étranger, ou la créature, de sa voix chuchotante, pénétrante. « Au moins va-t-on pouvoir s'entendre penser ?»« Qui êtes-vous ?» L'homme tic-tac se déplaça légèrement, et d'autres poids se mirent à glisser à travers sa tête, creusant de nouveaux canaux dans sa cervelle. Si atroce que fût cette sensation, la fruche chatouillie des mouches dans sa joue droite était pire encore. « Je suis un homme au nom multiple, partenaire, » dit l'homme depuis les profondeurs obscures de son capuchon. Et bien que sa voix fût grave, Tic-Tac y sentit affleurer le rire. « Certains m'appellent Jimmy et d'autres Timmy. Certains Andy et d'autres Danny. » Il peut bien m'appeler le perdant ou le gagnant tant qu'il ne m'invite pas trop tard à dîner. » L'homme sur le seuil rejeta la tête en arrière et son rire fit se hérisser de chair de poule les bras et les chines du blessé. On eût juré le hurlement d'un loup. « On m'a baptisé l'étranger sans âge. » L'homme avança vers Tic-Tac qui se mit à geindre et tenta de battre en retraite. On m'a également appelé Merlin ou Merlin, et que m'importe puisque je n'ai jamais été celui-là, même si je ne l'ai jamais démenti. On m'appelle parfois le magicien ou l'enchanteur, mais j'espère que nous pourrons traiter sur des bases plus simples, des bases plus humaines. Il rabattit son capuchon, révélant un visage clair au grand front qui, en dépit de sa plaisante beauté, n'avait rien d'humain. De larges rosaces fiévreuses marbraient les pommettes de l'enchanteur. Ses yeux gris-bleus étincelaient d'une joie démente. Ses cheveux bleus noirs se dressaient en touffe hirsute, telles les plumes d'un corbeau. Ses lèvres carmin s'entr'ouvrirent sur des dents de cannibale. « Appelle-moi Fanin, » dit l'apparition souriant. Richard Fanin. Ce n'est pas tout à fait exact, peut-être, mais je suppose que le nom est suffisamment vraisemblable pour permettre à un quidam de se dégoter un bon boulot de gratte-papier. Il tendit une main dont la paume était complètement dépourvue de lignes. Qu'est-ce que t'en dis, partenaire ? Serre la main qui a ébranlé le monde. L'homme qui avait jadis été Andrew Quick et qu'on avait connu dans le repère des gris sous le nom de l'homme Tic-Tac, hurla et tenta de nouveau de battre en retraite. Le morceau de son cuir chevelu enlevé par la balle de petit calibre qui n'avait fait qu'érafler son crâne au lieu d'y pénétrer, voltait d'avant en arrière. Les longues mèches de cheveux gris blonds continuaient de lui chatouiller la joue. Quick, cependant, ne s'en rendait plus compte. Il avait oublié jusqu'à la douleur qui lui vrillait la tête et le lancement de son orbite désormais vide. Toute sa conscience s'était fondue en une seule et unique pensée. Je dois m'éloigner de cette bête à figure humaine. Pourtant, lorsque l'étranger saisit sa main droite et la serra, cette pensée s'envola tel un songe au réveil. Le cri emprisonné dans sa poitrine s'échappa de ses lèvres en un soupir d'amant. Il fixa un regard hébété sur le nouveau venu souriant. Le morceau à demi arraché de son cuir chevelu oscillait. Ça te gêne ? Cela doit te gêner ? Attends ! Fanin attrapa le bout pendant et l'arracha brutalement de la tête de Quick, révélant une partie de cervelle grisâtre. Il y eut un bruit de lourde étoffe qui se déchire. Quick hurla. Là !
Là ! C'est l'affaire d'une seconde.
L'homme, maintenant un croupeton devant Quick, lui parlait comme le ferait un parent indulgent à un enfant qui a une écharde dans le doigt.
« N'est-ce pas ?»«
Oui, » marmotta Quick.
Et Et c'était vrai. Déjà la souffrance refluait. Et quand Fanine tendit de nouveau la main vers lui, son sursaut de recul ne fut que pur réflexe, vite réprimé. Sous les caresses de la paume dépourvue de lignes, Quick sentit de la force revenir en lui. Il leva les yeux sur le nouveau venu avec une gratitude muette, lèvres tremblantes. « Est-ce mieux, Andrew ? C'est mieux, n'est-ce pas ? Oui, oui. Si tu désires me remercier, et je n'en doute pas une minute, tu n'as qu'à prononcer une phrase qu'avait coutume de dire une de mes vieilles connaissances. Cet homme m'a trahi pour finir, mais ça a quand même été un bon ami pendant un bail, et je lui ai toujours conservé une petite place dans mon cœur. Dis, je donnerai ma vie pour toi. Ando, tu peux le dire ?» Tic-Tac le pouvait et le dit. En vérité, il semblait qu'il ne pourrait cesser de le dire. Je donnerai ma vie pour toi, je donnerai ma vie pour toi, je donnerai ma vie. L'étranger lui toucha encore la joue, mais cette fois, une énorme vague de souffrance déferla dans le crâne d'Andrew Quick. Il hurla. Navré, mais le temps presse et tu étais bien parti pour avoir tout d'un disque rayé. Andrew, je n'irai pas par quatre chemins. Est-ce que tu aimerais tuer le louchon qui t'a tiré dessus? Sans compter ses amis et le dur à cuire qu'il a amené ici. Lui, entre tous. Et même la sale bête qui t'a énucléé, Ando, ça te plairait ? Oui, haleta l'ex-homme Tic-Tac. Ses mains se serrèrent en deux poings sanglants. Oui, c'est bien, dit l'étranger, aidant Quick à se mettre debout. Parce qu'ils doivent mourir, ils se mêlent d'affaires qui ne les regardent pas. Je pensais que Blaine allait s'occuper d'eux, mais les choses sont allées beaucoup trop loin pour dépendre de quoi que ce soit. D'ailleurs, qui aurait pu imaginer qu'elles pourraient aller aussi loin ? Je ne sais pas. Et de fait, Quick n'avait pas la moindre idée de ce dont parlait l'étranger. Et il n'en avait cure aussi bien. Un sentiment d'exaltation rampait dans son esprit comme une drogue de première qualité, et après la souffrance du pressoir à cidre, il avait son compte. Plus que son compte. Les lèvres de Richard Fanning s'incurvèrent. Ours et os, clé et rose, jour et nuit, temps et marée. Assez ! Assez, dis-je ! Ils ne doivent pas arriver plus près de la tour qu'ils ne le sont à présent. Quick partit en arrière en chancelant quand les mains de l'homme jaillirent à la vitesse d'un éclair de chaleur. L'une brisa la chaîne qui soutenait la minuscule pendule enclose dans du verre, l'autre ôta la Seiko de Jake Chambers de son poignet. « Je prends juste ça, d'accord ?» Fanine, l'enchanteur, avait un sourire charmeur, les lèvres modestement fermées sur ses dents horribles. « Ouh, as-tu une objection ?»« Aucune, » dit Quick, abandonnant sans appréhension les symboles de son long leadership, sans avoir conscience en fait de la portée réelle de son geste. « Faites comme chez vous. »« Merci, Andrew, » dit doucement l'homme sombre. « À présent, nous devons faire vite. Je m'attends à un changement drastique de l'atmosphère de ces parages dans les 5 minutes à venir, ou à peu près. Nous devons nous rendre au plus proche entrepôt de masques à gaz avant que cela ne se produise, et c'est imminent. Je pourrais survivre sans problème, mais je crains que tu n'aies quelques difficultés. » « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » dit Andrew Quick. La tête lui élançait de nouveau et son esprit tourbillonnait. « Il n'est pas nécessaire que tu comprennes, » chuchota l'étranger. « Viens, Andrew, nous devons nous hâter, je crois. » Quelle journée chargée, hein ? Avec un peu de chance, Blaine les carbonisera sur le quai où, je gage, il se trouve encore. Il est devenu très excentrique au fil des années, ce pauvre garçon. N'empêche, je pense que nous devons faire vite. Il passa le bras autour des épaules de Quick et, pouffant, l'aida à franchir l'écoutille que Roland et Jake venaient d'emprunter quelques minutes plus tôt.